Hey. Hello, scribes. Can you please tell me that you're receiving audio? Type back a brief confirmation for me, please. The scribes active? We have scribing for this, don't we? We have scribing for this one, this session. Are the scribes on?
Yes.
They are? Okay.
Yes, I believe. I'm going to look at that right
now. All right. I just don't see them typing anything back.
Done?
Yeah, I think so. Until later on today, we'll be using two, I think, for like the last session. Thank you. Okay.
All right.
So he's refreshing the screen.
Again there.
Okay.
And then, describing.
All right. Hello, scribes. Are you? Thank you very much. Nice to see your reply. Cheers. Okay. Chuck, do you need to?
Yeah, I need to do the next right ahead.
If I'm in your way.
No, you're okay.
October 13th, 2014. This is the All Things Who Is Now and in the Future for Los Angeles room from 1400 to 1530.
Yeah. No problem, Chuck.
If we have any GAC members that would like to speak in the agenda portion that's related to GAC comments, there's reserved seats up front, so you can get to the mic if any of you would like to sit up in the front.
I'm sorry, could you repeat that because it wasn't heard out front? I'm sorry, you weren't heard out front then, the PA wasn't on, if you want to repeat that.
Can we repeat that? Yes, we've reserved the front two seats.
Nous avons réservé les deux premières files pour les membres du GAC qui souhaitent parler dans la partie de cette session destinée aux membres du GAC. Je ne sais pas s'il y a des membres du GAC ici présents qui souhaitent venir ici prendre leur place au fond de la salle. Merci.
Should we get started? Before we get started,
Jamie-Lynn prend la parole. Nous allons commencer. Avant de commencer notre session, je veux vous dire qu'il y a des sites réservés pour les membres du GAC qui souhaitent participer de la session, parce qu'une partie de cette session est consacrée aux membres du GAC pour qu'ils présentent leurs préoccupations en matière du quiz. Je m'appelle Margie Mylan. Soyez les bienvenus. Bienvenue à la session dénommée « Tout sur le quiz ». Cette session a été préparée par sous demande du GAC, tel qu'ils l'ont demandé dans leur communiqué de Londres. Aujourd'hui, nous allons donner un aperçu des différentes activités en matière du quiz pour qu'ils soient au courant de chacune de ces activités et de la manière dont vous pouvez tous participer. Nous allons dialoguer avec les membres du GAC pour savoir quelles sont leurs préoccupations par rapport au quiz. Nous parlerons du futur, de l'avenir du quiz, notamment sur les prochaines démarches à suivre pour analyser les recommandations du groupe de travail d'experts qui a fait des recommandations sur la manière de remplacer le quiz avec un nouveau système. Et pour finir, vous allez tous avoir l'occasion de prendre le micro, de vous approcher au micro et présenter vos préoccupations concernant le programme du quiz. Ici, vous voyez les questions qui vont être abordées pendant cette session. Comme vous le voyez, il y a beaucoup d'informations. Les questions, nous allons les réserver pour la fin de la session. Mais comme je vous l'ai déjà dit, les membres du GAC vont pouvoir présenter leurs préoccupations spécifiques. Et l'idée, c'est d'aborder toutes ces questions pendant les prochaines 90 minutes. Avant de commencer, je voudrais vous donner un aperçu des initiatives du quiz. En 2012, le Conseil de l'ICANN a adopté une approche à deux voies pour aborder le quiz, comme résultat de l'analyse des recommandations de l'équipe de révision du quiz. Ceci a provoqué ou a créé une série d'activités, à savoir l'amélioration du quiz actuel, dont les orateurs ici présents vont nous parler. Mais d'autre part, il y a un autre programme qui est consacré à voir le système actuel et voir les manières de redéfinir l'objectif et la fourniture de données de GTLD et voir s'il y a de nouvelles manières de présenter ces données. Pour cela, un groupe d'experts a été créé pour évaluer le besoin d'une prochaine génération de services d'annuaire d'enregistrement pour remplacer le système du quiz. Susan Kalaguchi va nous parler de la situation de cette initiative. Nous allons commencer cette session avec une présentation de Stephen Pedlow. C'est un honneur pour moi de le présenter. Il travaille à l'Université de Chicago, au Centre de recherche de l'Université, le NORC. Ce centre de recherche a publié des études sur l'exactitude du système du quiz. Stephen Pedlow prend la parole. Bonjour. Mes collègues du centre de recherche NORC et moi-même, nous sommes heureux de faire partie de cette initiative et de pouvoir fournir des statistiques à la communauté de l'ICANN sur l'exactitude des données du quiz. Voilà les objectifs du système pour informer sur l'exactitude des données du quiz ou ARS. Identifier de manière proactive les registres quiz qui ne sont pas exacts, analyser les outils automatisés du quiz. Aussi, envoyer les registres inexacts au bureau d'enregistrement pour qu'ils prennent les actions correspondantes. Et nous allons vous donner aujourd'hui une mise à jour du programme pilote et des résultats préliminaires. Ce programme pilote a commencé en août 2014 Alors, nous avons travaillé vraiment rapidement. Nous nous excusons de ne pas vous avoir pu donner des documents au préalable jusqu'à jeudi ou vendredi de la semaine dernière. On analysait des données. Ce programme pilote a impliqué la collaboration de différentes sociétés pour analyser l'exactitude syntaxique et opérationnelle des numéros de téléphone, d'adresses postales et adresses de courrier électronique. Alors, avec la validation syntactique, on vérifie si l'information est correcte, c'est-à-dire si cela est vraiment un numéro de téléphone ou adresse valide. La validation opérationnelle évalue s'il s'agit d'un courrier électronique, un numéro de téléphone ou un courrier électronique valide. Puis, nous faisons la validation de l'identité, c'est-à-dire nous évaluons si cette adresse de courrier électronique ou numéro de téléphone ou courrier postal correspond au nom du titulaire de nom de domaine. Nous allons voir aussi une comparaison entre les bureaux d'enregistrement sur les différents contrats d'accréditation de bureaux d'enregistrement 2009 et 2013. Nous allons voir les nouveaux GTLD comparés aux GTLD existants et nous allons aussi parler des régions géographiques. Ma société, le Centre de recherche NORC, a été chargé d'un échantillonnage de 100 000 noms de domaine. Nous avons travaillé avec les nouveaux GTLD qui contiennent 1,4% de tous les domaines ou qui représentent le pourcentage de tous ces domaines à partir du mois d'août. Mais nous avons choisi un échantillon de 25%. Nous avons sélectionné 25 000 domaines de 318 nouveaux GTLD ayant un nouveau domaine, c'est-à-dire tous les domaines. Nous avons sélectionné un minimum de 10 domaines de chacun de ces GTLD et s'il y avait moins de 10, ils ont été tous sélectionnés pour les incorporer au programme pilote. Pour les GTLD existants, nous avons sélectionné 75 000 domaines de 20 GTLD. Le minimum était de 30 et si c'était moins de 30, ils étaient tous inclus. Chacun de ces GTLD est un échantillon indépendant, ce qui veut dire que nous prenons la liste et nous cherchons un point de départ. Par exemple, le troisième registre. À partir de là, nous avons sélectionné le septième registre. Alors, c'était le 3, le 10, le 17, etc. pour un GTLD en particulier. Si un fichier est classé d'une manière ou d'une autre et on ne peut pas le savoir, cela garantit un échantillonnage vraiment représentatif. Les fournisseurs n'ont pas nécessairement analysé les 100 000 registres, qui est un nombre vraiment important, bien plus grand que celui fait par l'ICANN ou le NORC. Là, on a choisi deux échantillonnages de 10 000 et de 1 000 qui ont été analysés par les fournisseurs. On a fait des échantillonnages régionaux qui ont été très importants. Nous avons eu des échantillons de largeur suffisante pour comparer les 5 régions. Tous les domaines africains ont participé de l'échantillonnage de 100 000 et l'Amérique latine et les Caraïbes. Nous avons fait un échantillonnage de ces deux régions qui a fait partie de la sélection des 100 000 domaines. Ici, nous voyons des échantillonnages différentiels par région. Vous pouvez le voir sur l'écran. Lorsqu'on a sélectionné ces sous-échantillons, nous avons pu contrôler les archives. Nous avons organisé un nouveau GTLD contre les GTLD existants. On les a organisés par GTLD, par bureau d'enregistrement, par pays et finalement par le site où se trouve l'archive de la zone racine. Et cela nous a permis d'avoir la meilleure représentation statistique de notre échantillonnage. Ici, vous voyez le résumé de la portée de cette étude pilote. Le Centre Nord a sélectionné 100 000 registres qui ont fait l'objet de consultations de la part de l'ICANN et qui ont été classés par WISPI. Strike Iron a examiné les 100 000 registres pour valider les adresses de courrier électronique. DigiCert a fait une vérification syntactique pour les 10 000 registres téléphones et une autre pour 1 000 registres. L'Union de la Poste, Universal Postal Union, a fait une vérification syntactique de 10 000 registres et une vérification opérationnelle de 1 000 registres. Ici, on voit les priorités pour le rapport du système ARS. Des nouveaux GTLD comparés à des GTLD existants. Les bureaux d'enregistrement qui sont régis par le RAA 2013 contre ceux qui sont régis par des versions précédentes. Le respect spécifique au RAA, des comparaisons régionales, les comparaisons entre bureaux d'enregistrement et GTLD et les tendances, l'analyse des tendances. On ne peut pas faire une analyse des tendances pour le programme pilote, alors nous n'avons pas de respect de ce programme pilote. Mais ici, nous pouvons parler de différents domaines. Sur l'écran, vous voyez le résumé des résultats préliminaires. Je vais parler de ces résultats dans un contexte qui nous donne certains numéros ou chiffres. Avant de montrer les résultats, je vais vous dire qu'on a essayé d'évaluer l'exactitude de ces domaines dans toutes les catégories. Aujourd'hui, on considère des défaillances minimales et des défaillances limitées comme des niveaux pour savoir si le domaine fonctionne bien. Et par la suite, nous avons des défaillances significatives ou des défaillances totales. Ces deux dernières indiquent que le registre n'est pas exact. Ici, vous pouvez voir les premiers résultats et une comparaison entre les bureaux d'enregistrement régis par le RAA 2009 et 2013 et les nouveaux GTLD contre les GTLD existants. Dans la dernière colonne, vous voyez les chiffres totaux de l'exactitude qui sont concentrés sur les deux dernières colonnes à droite. Vous voyez la comparaison entre les GTLD existants et les nouveaux GTLD. Et vous voyez que normalement, les adresses électroniques ont l'exactitude syntaxique. Vous pouvez voir aussi les différences significatives. Il n'y a pas plus de 3% de différence entre les nouveaux GTLD et les GTLD existants. En rouge, vous avez les différences significatives. Nous voyons que les domaines régis par le RAA 2009 sont plus exacts que ceux régis par le RAA 2013. Toutefois, les bureaux d'enregistrement régis sous le RAA 2013 ont plus d'exactitude en ce qui concerne le courrier électronique. Dans la catégorie opérationnelle, on voit que les lignes téléphoniques montrent de grandes différences. Ceci n'a pas d'importance statistique et cela suggère qu'un échantillon de 1000 unités est trop petit pour faire un travail efficace. Ici, nous voyons la deuxième partie des résultats où on compare les 5 régions de l'ICANN. Ce qui est en rouge montre que la région a une exactitude bien plus faible que le reste des régions, alors que ce qui est en vert indique que l'inexactitude est bien plus grande que dans le reste des régions. Pour les numéros de téléphone, nous voyons que le résultat est plus élevé pour l'Amérique du Nord et plus faible pour l'Afrique. Pour les adresses postales, on voit que l'Europe et l'Amérique latine ont les indices ou les taux les plus faibles. Et les numéros 267.4 sont des chiffres exacts. Ce n'est pas une erreur de frappe. Pour ce qui est de la vérification opérationnelle des courriers électroniques, la zone de l'Asie-Pacifique et l'Australie a les valeurs les plus faibles. Ici, vous voyez des comparaisons opérationnelles entre des numéros de téléphone. Cependant, je vous dis que l'Afrique, l'Asie et l'Australie-Pacifique ont un niveau bien plus faible que l'Europe et l'Amérique du Nord. L'Amérique latine et les Caraïbes et l'Europe n'ont pas de différences importantes avec les autres valeurs. Voilà pourquoi je n'ai pas montré ces valeurs sur l'écran. L'Europe, l'Amérique latine et les Caraïbes ont les niveaux d'exactitude les plus élevés, pas de différence significative entre les trois autres groupes. Maintenant, nous allons voir la comparaison des GTLD. Sur cet écran, nous pouvons voir l'échantillonnage des 10 plus grands GTLD qui ont participé de notre étude. X, Y, Z n'est pas plus grand que point BIS, mais il y a plus de domaines X, Y, Z que point BIS. Nous voyons que l'échantillonnage de 1000 unités indique des résultats très, très faibles, sauf les GTLD qui sont vraiment importants. Comme vous le voyez dans la partie supérieure de l'écran, on peut établir une comparaison, mais on ne va pas publier ces résultats dans le programme pilote. Nous vous les montrons ici pour que vous sachiez comment ça se passerait. Ici, il y a une étude des 10 GTLD les plus importants sur la base de l'exactitude des courriers électroniques, mais nous avons caché les identités. Voilà pourquoi ces GTLD, A, B, C, D, etc. Toutefois, quand on parle de l'exactitude opérationnelle des courriers électroniques, nous voyons que l'ordre de cette classification change. Alors, il y a un GTLD qui devrait être à la quatrième place et pas à la première. Le GTLDB est un des plus de ce qui est plus haut dans les deux cas. L'importance de l'échantillonnage nous dit que, c'est-à-dire, ce n'est pas important de le montrer pour le code postal et les numéros de téléphone. Nous allons passer au bureau d'enregistrement. Voici les 10 bureaux d'enregistrement les plus importants. Et le nombre de domaines de chaque échantillon et sous-échantillon. Je vais vous donner quelques instants pour que vous puissiez voir ces données dans la colonne de 1000 unités. Les chiffres sont vraiment faibles, même pour les bureaux d'enregistrement qui se trouvent à la 9e et la 10e place, parmi les plus importants. Ici, on voit la classification des 10 bureaux d'enregistrement les plus importants, la vérification syntactique des courriers électroniques à gauche et à droite, la vérification opérationnelle des courriers électroniques. Le bureau d'enregistrement J occupe la dernière place dans les deux cas. Voici donc les résultats que nous avons à partager avec vous. Ce programme pilote nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Il faut bien avoir des définitions alternatives qui peuvent créer des résolutions avec des estimations différentes. Et nous avons également inclus la validité ou la vérification des noms de domaine de la conformité avec différents documents RFC. Nous avons également combiné les points de toutes les catégories analysées dans une seule évaluation. Le temps disponible nous a compliqué un peu l'action. Nous n'avons pas pu faire la validation de l'identité. Ce serait complexe et très coûteux. Nous avons toujours besoin de vérifier certains détails pour pouvoir compter avec la RS. L'échantillon pilote montre qu'il n'est pas suffisant d'avoir un échantillon de 1000 unités pour faire la validation. Ce serait suffisant d'avoir 2000. Quelles seraient les conséquences en matière de coût d'une validation opérationnelle? Voilà, nous essaierons de répondre à toutes ces questions. Maintenant, je vais passer encore une fois la parole à Margie Mylan. Merci, Stephen. Alors, ici, nous avons les antécédents de vers où on va avec cette analyse. Vous pouvez voir ici les jalons et les délais pour le système d'information de l'exactitude du RUIS. Il y a des résultats préliminaires à Los Angeles et après, nous allons publier le rapport complet de ce travail pilote. Steve et son équipe ont préparé un rapport complet qui va être publié et qui sera ouvert aux commentaires publics. Je suppose que cela aura lieu vers la fin octobre. Il y aura une information résumée qui sera utilisée pour mettre à jour la méthodologie et les approches que nous avons déjà identifiées dans le travail pilote. C'est à vous de participer avec les commentaires ou pas et nous dire si l'approche méthodologique est correcte ou pas, parce que nous avons besoin peut-être de faire des ajustements ou des corrections. Dès que le système sera en fonctionnement, ce qui dépendra du niveau de validation, eh bien, nous voyons qu'il y aura une étape 1 qui fera une analyse de la validation syntactique pour février de l'année prochaine. À la deuxième étape, nous allons voir les éléments opérationnels plus complexes, tels que Steven l'a dit, et qui sont plus coûteux et qui prennent plus de temps. Et finalement, la question pour la communauté, pour vous tous, est de voir la portion de validation de l'identité de tout cela, parce que d'après ce que nous avons appris des réponses aux RFP, c'est vraiment cher et c'est manuel. Alors la communauté doit décider si nous devons effectuer ce type de validation avant de continuer avec le nouveau système de reporting. Et finalement, comme je l'ai dit, nous allons publier un rapport complet. Nous allons recevoir les commentaires publics jusqu'à la fin de l'année. Et je répète, nous voulons entendre vos commentaires sur la méthodologie, l'approche et la conception. Nous cherchons également des volontaires de la communauté, notamment de la communauté des bureaux d'enregistrement, tel que Steve l'a mentionné, pour faire partie d'un système de transmission de registres qui ne sont pas exacts au bureau d'enregistrement pour pouvoir faire un suivi. Évidemment, ceci a un impact dans la communauté des bureaux d'enregistrement. Nous cherchons donc des bénévoles pour ce groupe de travail afin de déterminer le meilleur processus pour aller de l'avant. Maintenant, nous allons voir les points les plus importants du RUIS. Le premier a trait à l'accréditation, à l'anonymisation, à l'enregistrement fiduciaire. Don Blumenthal, qui est le président du groupe de travail du PDP, va vous faire cette mise à jour.
It's on now, yeah. I know computers, I don't know microphones.
Don Blumenthal prend la parole. Je m'y connais en informatique, mais pas en micro. J'apprécie que vous soyez là. Nous allons couvrir certains thèmes qui sont intéressants et sur lesquels j'ai travaillé depuis longtemps. Je travaille sur le RUIS depuis 1998. Alors, je peux vous dire que c'est devenu quelque chose de vieux et j'essaye de voir qui est parmi l'audience, qui est parmi les participants. S'il y a des membres du groupe de travail qui puissent monter ici. Je ne m'y connais pas non plus en télécommande. L'objectif du groupe qui se penche sur l'accréditation des services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire, c'est d'arriver à trouver des normes pour l'accréditation de ce type de services. Ces services existent depuis un certain temps, mais il y a quelques années, en vertu du RA 2013, l'ICAN essaye de mettre en place un service d'accréditation pour les services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire. La Genesso s'est penchée sur une longue liste de problèmes et je m'excuse si je ne suis pas exactement les diapos. Quand j'étais enseignant, je ne m'en servais pas. Et donc voilà, j'ai tendance à suivre mes pensées plutôt qu'à regarder les diapos. Ceci dit, je vous disais qu'on nous a donné une longue liste de problèmes sur lesquels la Genesso devait se pencher. Et parmi ces problèmes, il y en a qui sont plus importants que d'autres. Nous avons travaillé pendant 10 mois et c'est difficile de résumer ce travail en quelques minutes. Je vais donc aborder les questions les plus importantes qui concernent l'accréditation des services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire. Tout d'abord, il faut voir s'il s'agit des mêmes services. Parce qu'on ne va pas appliquer les mêmes règles à des services qui sont différents. Les services d'anonymisation n'est pas le même concept que le service d'enregistrement fiduciaire. Donc, on essaie de comprendre quels sont ces concepts. L'enregistrement de ce service, des problèmes concernant les contacts, comment contacter les fournisseurs de ce service. Actuellement, nous nous penchons sur les questions de révélation et de relais. Et je dois dire qu'il est difficile de séparer ces éléments quand il y a une demande pour passer des informations au bénéfice d'un certain titulaire. Cela ne nous dit pas forcément de quel titulaire s'agit. Et quelles sont les procédures à appliquer? Quelles sont les obligations de ces fournisseurs de services? Doivent-ils renvoyer ces requêtes? Pour vous donner une idée, que pour les communications électroniques, si l'on cherche un consensus, la réponse c'est oui. S'il y a un processus raisonnable, S'il y a un fournisseur de services d'anonymisation ou enregistrement fiduciaire qui fait l'objet d'une accusation ou s'il y a un bureau d'enregistrement qui est accusé, donc notre conseil, c'est que la période de relais-révélation ne soit pas transmise forcément à chaque fois et que donc on puisse mettre en place des mesures anti-spam. Si cela est fait, on ne pourra peut-être pas avoir toutes les informations. On travaille sur la révélation et ici, il faut faire une différence, établir une différence entre deux types de révélations. D'un côté, la divulgation d'informations. Merci, je ne peux pas lire tous les transparents, toutes les diapos. Il faut donc établir une différence entre les différents types de révélations. D'un côté, nous avons la divulgation, où il y a une requête. Il y a quelqu'un qui requête cette information, mais cette information ne doit pas forcément être publiée dans le système de données publiques de Whois. Il faut donc différencier cela de la publication. La publication concerne le cas où l'information est enregistrée dans les systèmes qui sont disponibles pour le public. Nous n'avons pas encore examiné la question de l'extinction de ces services. Il y a eu des membres de la communauté, des registres, des bureaux d'enregistrement et de la communauté en général, les gens qui travaillent dans la propriété intellectuelle, le NCSG, la communauté qui travaille sur les questions de l'anonymisation, confidentialité, les membres de registres. Ici, nous avons un membre de la communauté des registres. On m'a demandé si je voulais présider ce groupe. Et nous avons des inquiétudes par rapport aux intérêts mais nous ne sommes pas directement concernés par les décisions que peut prendre ce groupe de travail. Nous avons donc un groupe de personnes qui travaillent ensemble, des gens qui sont concernés par la question de l'anonymisation de l'enregistrement fiduciaire. Nous avons eu des débats très riches. Nous avançons à un rythme intéressant. Nous avons un ordre du jour assez chargé, un programme assez chargé. Et en ce qui concerne le relais et la révélation, les requêtes de relais et révélation, nous avons avancé assez vite. Nous aurons une séance vendredi qui nous permettra de savoir où nous en sommes. Et je crois que cette séance sera très intéressante pour pouvoir créer un consensus autour de des questions liées à la révélation et le relais d'informations. Nous aurons un rapport initial pour la réunion de Marrakech. Je sais qu'on ne pourra pas se mettre d'accord, que tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Nous avons un espace consacré à notre groupe dans le wiki. Mais si vous avez des questions spécifiques, je vous prie de me la poser au moment des questions-réponses. Merci. Martin Millen prend la parole. Maintenant, Jamie Headland va nous donner des informations. Jamie Millen prend la parole. Je vais être bref. Les registres et les bureaux d'enregistrement ont l'obligation de collecter les informations du CUIS, y compris des informations personnelles comme le nom, le téléphone, le numéro de téléphone, etc. Mais il y a des lois nationales concernant la confidentialité, la vie privée. Et le CUIS entre en conflit parfois avec ces lois nationales lorsque ces lois nationales établissent des normes qui ne sont pas les mêmes ou qui vont à l'encontre de la collecte et la distribution de ces informations personnelles. La GNSO a élaboré une politique en 2005 qui a été adoptée par le conseil d'administration en 2006 et mise en œuvre en 2008. Conformément à ce processus, les parties contractantes, c'est-à-dire les parties qui ont passé un contrat avec l'ICANN, doivent dire à l'ICANN, nous avons un problème, il nous faut négocier cette disposition concernant la vie privée qui figure dans le contrat pour ne pas aller à l'encontre des lois nationales. Pourquoi nous mettons en place ce processus qui est en vigueur depuis 2008? Ce processus n'a jamais été utilisé avant. Les lois concernant la vie privée dans le monde ont changé et dans le nouveau contrat d'accréditation de bureau d'enregistrement, le RAA 2013, il y a une disposition concernant les conflits du CUIS avec les lois nationales. Conformément à ce processus, ou en vertu de ce processus, les bureaux d'enregistrement ont demandé à l'ICANN des dérogation à ces dispositions concernant la collecte de données de nature privée. Nous avons mis en place une consultation publique pour savoir jusqu'où et comment les procédures devaient être modifiées à la lumière des inquiétudes exprimées par les registres et les bureaux d'enregistrement, ainsi que les différentes raisons pour lesquelles on devrait accorder une dérogation aux dispositions contenues dans les contrats concernant le CUIS. Nous avons donc posé des questions dans ces consultations publiques, à savoir s'il fallait demander aux parties ayant signé le contrat d'avoir fait l'objet d'une réclamation de la part du gouvernement pour pouvoir demander cette dérogation. Et en ce qui concerne la conservation de données, il ne fallait pas démontrer qu'il existait une procédure gouvernementale à l'encontre d'un bureau d'enregistrement, mais qu'il pouvait faire l'objet d'un, il pouvait présenter un avis d'un cabinet juridique démontrant qu'il fallait, qu'il y avait un problème. Nous avons reçu 8 commentaires dans cette consultation publique. La question la plus importante était de savoir ce qui devait, la raison pour laquelle, ou le déclencheur de cette demande de dérogation. Certains commentaires disaient que cette dérogation devait être accordée, d'autres disaient que le contrat allait s'affaiblir si ces dérogations étaient évoquées dans le contrat. En ce qui concerne les étapes à suivre dans cette réunion et après, nous allons demander, lancer un appel à bénévoles pour constituer un groupe chargé d'élaborer des recommandations qui seront adressées au conseil de la GNSO et finalement au conseil d'administration pour mettre en place éventuellement des changements. Marge Milan prend la parole. Dans cette étape de notre réunion, nous allons écouter les inquiétudes des membres du GAC par rapport aux différents projets liés au WHOIS. Nous avons Heather Dryden, présidente du GAC, qui est parmi nous. Elle va lire certains commentaires. Et bien sûr, nous sommes ouverts à écouter les inquiétudes des autres membres du GAC concernant les problèmes liés au WHOIS. Je vous prie de bien vouloir allumer ce micro, dit Heather Dryden. Heather Dryden prend la parole. Merci et bonjour à tous. Je vais faire quelques remarques d'ordre général et préliminaire pour vous montrer le point de vue du GAC par rapport à certains problèmes liés au WHOIS. Il y a d'autres collègues du GAC qui sont ici présents et qui pourront éventuellement poser des questions à titre personnel. Pour compléter ce que je vais dire, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir organisé cette session. C'est une session que le GAC avait proposée afin de pouvoir mieux comprendre les enjeux autour de ce dossier que l'on appelle le WHOIS. Les gouvernements essayent de voir quelles sont les pistes de travail et surtout comment ces pistes de travail sont liées les unes les autres. Et vu la quantité de travail que nous avons devant nous, il faut savoir où nous devons concentrer nos énergies. Et jusqu'à présent, il a été difficile pour le GAC de comprendre l'essence de ce problème et pour pouvoir y contribuer. Cette séance va bien entendu nous aider à mieux comprendre les enjeux liés au WHOIS. Mais je pense que les gouvernements souhaitent pouvoir s'impliquer dans l'élaboration de politiques concernant le WHOIS, il y a un groupe de travail d'experts qui va venir et qui va diriger un processus de développement de politique, ce qui peut représenter une difficulté pour nous aussi. Ceci dit, le GAC considère que les principes de 2007 sont encore pertinents et nous espérons qu'ils continueront à orienter les efforts dans ce domaine. Ce que nous cherchons, c'est plutôt une feuille de route pour avoir un aperçu des différents domaines d'activité afin que le GAC puisse savoir ce qui se passe et quand afin de pouvoir mieux appréhender quel est le calendrier, quels sont les délais par rapport aux différentes activités. Le GAC est inquiet et préoccupé ou s'inquiète de pouvoir contribuer à ces différents processus. Nous avons contribué à un moment donné et nous croyons donc que les principes de 2007 sont toujours pertinents. Je vais m'arrêter là et peut-être qu'à la fin, il y aura des possibilités de poser des questions et les membres du GAC vont probablement m'aider à vous poser les questions que nous avons par rapport à chaque point. Marjorie Milam prend la parole. Nous allons donc donner la possibilité aux membres du GAC à la fin de cette séance de poser leurs questions s'ils en ont. Nous allons passer maintenant à notre point suivant du programme. Merci pour ces commentaires. Le personnel va voir comment développer un calendrier afin que ce soit plus clair pour vous, comment les différentes initiatives sont liées les unes avec les autres et quels sont les délais pour chacune. Cette partie du programme concerne une mise à jour par rapport à d'autres points liés au quiz. Par exemple, la question du quiz détaillé. Et nous avons Francisco Arias. Francisco Arias prend la parole. Merci Margie. Bonjour à tous. Je suis directeur des services techniques de la division des domaines mondiaux. Je vais commencer avec un aperçu sur la mise en place du quiz. Il s'agit d'une politique qui a été adoptée par la GNSO, par le conseil d'administration suite à une recommandation de la GNSO cette année, au début de cette année. Il y a plusieurs points. Tout d'abord, il y a la recommandation d'une transition d'un quiz résumé vers un quiz détaillé. À l'aide du modèle de quiz résumé, c'est un sous-ensemble des données d'enregistrement incluses dans le quiz. Mais cela n'inclut pas les données de contact de nom de domaine. On suggère, on recommande d'avoir un étiquetage uniforme et que l'on montre les données quiz de façon uniforme. Cela s'applique aux données nouvelles et aux données que l'on avait déjà dans le système quiz, c'est-à-dire qu'il y ait une unification au niveau du format. Il y a d'autres champs qui sont inclus dans le RAA 2013, mais non pas dans la spécification du quiz pour les nouveaux GTLD. Actuellement, le personnel travaille avec l'équipe de révision de la mise en œuvre pour l'élaboration d'un plan de mise en œuvre et d'autres éléments importants de la politique et des recommandations de politique sont prises en compte, comme par exemple l'examen juridique ou légal des aspects liés à la transition du quiz résumé vers le quiz détaillé. On entend commencer avec cette initiative à la fin de cette année. Cette tâche de mise en œuvre implique l'application d'un plan de diffusion pour la communauté, afin qu'ils puissent savoir ce qui va se passer dans l'avenir et parler également des détails de la mise en œuvre avec les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre qui devront mettre en place des changements au niveau de leur système. Il est important que la communauté puisse participer, puisque les registres et les bureaux d'enregistrement doivent être au courant de ces changements, car ils en sont concernés et cela affecte cela les affecte de près. Les parties intéressées peuvent donc participer à cette équipe de révision de la mise en œuvre. Nous allons également organiser une session consacrée à ce sujet jeudi à 8h30 du matin dans la salle Constellation. Après cette session, nous aurons une autre session sur le prochain point de notre programme, dont je vais vous parler tout à l'heure, le protocole RDAP. Ce protocole serait un remplacement au protocole WHIS. Ce nouveau protocole RADP, qui est en cours d'élaboration par l'UETF, donne ou présente des avantages par rapport au WHIS. Parmi ces avantages, nous voyons l'internationalisation, c'est-à-dire la capacité du système à pouvoir recevoir les données d'enregistrement dans toutes les langues, codes ou alphabets. Dans le WHIS, par le biais du port 43, on n'obtient pas les résultats dans toutes les langues. Nous pouvons avoir aussi, dans ce nouveau système, des messages standardisés ou normalisés, ce qui permet de mieux comprendre cette information et facilite l'utilisation de ce système par les internautes. Il s'agit d'un protocole extensible, c'est-à-dire que les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre peuvent inclure un plus grand nombre de champs de données. Dans ce protocole, il y a un certain nombre de champs qui ont été définis, mais d'autres champs peuvent être incorporés si cela est nécessaire en vertu des politiques applicables. Ce protocole serait neutre au niveau des politiques, puisque chaque registre ou bureau d'enregistrement peut décider des champs qu'il va inclure dans son protocole. Le protocole permet également d'avoir des sources distribuées, c'est-à-dire si nous avons un registre non détaillé, nous pouvons redirectionner ces informations grâce à ce protocole. Ce protocole permet aussi un accès différencié, c'est-à-dire qu'on peut proposer l'accès à des utilisateurs qui peuvent prouver leur identité et qui peuvent accéder à différentes données en fonction de leur niveau d'autorisation. Et il y a aussi une fonctionnalité de recherche. Je vais vous donner quelques antécédents historiques par rapport au WHIS. Il y a une recommandation du SSAC en 2011. Cette recommandation visait à remplacer le WHIS. Il y a eu un document où l'on a recommandé d'adopter un remplacement pour ce protocole WHIS. Plus tard, le conseil d'administration a adopté cette résolution et a demandé au personnel d'élaborer une feuille de route pour mettre en place ce changement. En juillet 2012, cette feuille de route a été publiée et le groupe de travail de l'IETF a été créé en 2012. Ce groupe de travail développe le protocole RDAP et on espère qu'il finira son travail dans les mois à venir. On a également entamé des discussions avec les registres et certains GTLD ont adopté certaines de ces dispositions dans leur contrat. On parle de .com, .org, .bis. Cette disposition est incluse aussi dans le RA 2013 et dans le nouvel accord, un nouveau contrat de registre. Et finalement, nous analysons avec la communauté s'il y a la possibilité de synchroniser la mise en œuvre du RDAP et de la politique de WHIS détaillée à la lumière des délais pour chaque initiative.
We do. Margie Mylon, merci Francisco. Avant de parler de la conformité, il y a deux membres du GAC qui souhaitent prendre la parole. Il y a certaines limitations quant au temps disponible, mais ils ont la parole. Susan Radel, représentante des États-Unis, prend la parole. Je tiens à remercier le panel et bien entendu à Margie. C'est vraiment étonnant tout ce que vous avez fait. Vous partagez beaucoup d'informations avec nous, mais je veux me faire l'écho de ce qui a été suggéré par la présidente du GAC. Pour être honnête, nous essayons de concevoir une feuille de route. Et je ne veux pas être péjorative, mais c'est comme un grand puzzle, le quiz, qui a toutes ses pièces. Et c'est assez difficile de voir comment ce puzzle peut être armé. Et il faut que nous comprenions cela, parce que notre objectif est justement de faire notre contribution dans la mesure du possible. Je crois que les membres du GAC prennent très au sérieux leurs responsabilités pour pouvoir aider au processus de développement de politique. Et ceci concerne également le JUIS. Alors, si nous comprenons mieux tout ce qui concerne le JUIS, ce sera d'un plus grand intérêt pour nous tous. Je veux signaler qu'il nous faut de l'aide pour l'information détaillée que vous nous donnez si gentiment. Nous avons besoin d'aide avec l'interrelation de toutes ces questions et les délais pour pouvoir focaliser notre travail de manière plus productive. Je crois qu'en ce moment, on est un peu confus, pour ainsi dire. Je voulais également mentionner pour reprendre le conflit du Jouy avec les lois nationales en matière de la vie privée. On a reçu que 8 commentaires. Nous sommes très reconnaissants aux collègues qui ont présenté ces commentaires. C'est plutôt le point de vue de chacun des membres du GAC qui est représenté. Ceci ne devrait pas être pris comme un manque d'intérêt, mais plutôt comme un manque de temps pour pouvoir présenter nos contributions. Nous voulons définitivement participer des prochaines étapes. Hier, pendant l'une des sessions du GAC et la GNSO, j'ai aussi signalé cette question. Nous avons un groupe de consultation conjoint entre le GAC et la GNSO qui a été créé pour analyser une recommandation de la TRT. J'aimerais donc recevoir les réactions de tout le monde a posteriori, quand quelque chose arrive à la GNSO et cette chose est dénommée conflit du JUIS avec les lois nationales, ceci devrait provoquer immédiatement une initiative dans laquelle nous tous, nous voulons collaborer. Dès le début, nous voulons identifier les différentes questions et aider à la rédaction du rapport thématique. Je crois que ceci a été présenté avec les membres du GAC et j'ai le soutien des membres du GAC ici présents. C'est bien clair que nous voulons participer. Merci. Jamie Headland prend la parole. Merci, Suzanne. Je vais dire très rapidement quelque chose. Quand nous avons publié ce travail pour commentaires publics, nous avons dit que d'après les commentaires reçus, nous allions avancer avec les recommandations du Conseil de la GNSO ou bien nous allons faire un IAG. Ceci a trait aussi à l'intérêt des membres de la communauté. Et peut-être pas tous les membres sont intéressés à ce que le GAC participe de l'initiative. Peter Nettlefold du gouvernement de l'Australie. Je veux réitérer les commentaires de la présidente du GAC et de la représentante du gouvernement des États-Unis. Ce serait vraiment utile, comme Suzanne l'a mentionné, de voir comment toutes ces pièces du puzzle peuvent être organisées. Quelle est la stratégie générale? Vous savez bien que j'ai participé de l'équipe de révision du JUIS de 2011. Alors, c'est peut-être la dernière occasion où il y a eu une révision exhaustive et un certain type d'orientation puisque le Conseil a répondu de manière positive à la plupart des recommandations. Quand j'entends parler des mises à jour sur les attitudes, je le reçois avec plaisir. Mais nous, à ce moment-là, c'était difficile de voir qu'on avait qu'une petite étude sur l'exactitude, à savoir l'étude du Nord. Et maintenant, nous avons une autre étude qui a des définitions quelque peu différentes de celles du Nord. Et nous n'allons pas pouvoir faire une analyse qui tienne compte d'un délai disponible. À mesure que vous avancez avec ce processus pilote, je fais confiance à ce que vous considériez la stabilité des définitions pour pouvoir comparer les résultats au fil du temps, c'est-à-dire que si les initiatives mises en place ont eu un effet ou pas. Je crois que l'équipe de révision du RUIS a su qu'aucune définition ne serait parfaite. Mais quand on a une méthodologie et que l'on est cohérent avec cette méthodologie, eh bien, cela est utile. Je voudrais vous donner quelques exemples de ce panorama général de mon point de vue. Compte tenu la révision 2010-2011 et compte tenu aussi du travail, du groupe de travail d'experts qui n'est pas encore fini. J'ai une question sur tous ces domaines de travail, et c'est-à-dire ce qui va apparaître comme résultat du travail du groupe d'experts et si cela sera inclus dans toutes les initiatives. Par exemple, ce groupe de travail a fait des recommandations en matière de privacité, de représentation, mais il y a aussi un autre groupe de travail qui travaille là-dessus. Alors, comment on va savoir quel est le groupe de travail qui prend les recommandations du groupe de travail qui sont encore en cours? Mais il y a quelque chose que personne n'ose dire. Moi, je verrai avec plaisir que tout cela puisse être inclus dans un seul panorama. Suzanne et moi-même, nous voulons voir si à un moment donné, le GAC peut participer et focaliser toutes les ressources, c'est-à-dire s'il y a une instance stratégique de participation pour le GAC. Comme notre présidente l'a dit, nous avons participé activement de la révision 2010-2011. Nous avons participé aussi des principes 2007. Alors, comment pourrait le GAC participer? Merci beaucoup. Bruce Tonkin prend la parole. J'appartiens au conseil d'administration de l'ICANN et j'ai travaillé sur le RUIS pendant les 15 dernières années. Alors, je crois que dans une certaine mesure, je peux aider à résoudre ce puzzle. Je crois que ce dont vous parlez, c'est un mélange de la mise en place approuvée. Et d'autre part, les débats en cours pour développer des politiques. Je crois que vous avez besoin d'un point d'ancrage. Le plus simple serait donc de travailler avec les recommandations de l'équipe de révision du RUIS. Ces recommandations ont obtenu des résultats. Par exemple, le Conseil a dit que si l'on étudie l'exactitude, on peut mesurer, on peut faire des échantillonnages pour mesurer l'exactitude et puis présenter ces résultats au bureau d'enregistrement pour qu'ils modifient leurs actions. Ça a fait l'objet d'un rapport. C'est ce que l'on présente, n'est-ce pas? Le travail du groupe d'experts EWG a été initié sur la base du rapport de l'équipe de révision du RUIS, parce qu'on a dit, on a analysé le système actuel et nous reconnaissons qu'il n'est pas suffisamment approprié. Alors, on a besoin d'un nouveau système, d'une proposition. Pour que cette proposition devienne une politique, elle doit passer à travers la GNSO. Le GAC devrait participer de ce processus de développement de politique. Alors, le conseil d'administration a créé un petit groupe de travail formé par certains membres de la GNSO pour qu'ils travaillent et puis passer à un PDP qui pourra être présenté au GAC, qui pourra éventuellement participer de ce PDP. Margie, alors ce que l'on pourrait faire, c'est comme un tableau de bord des activités de l'équipe de la révision du RUIS, c'est-à-dire cette initiative dérive de telle et telle recommandation. Le WG, le groupe de travail d'experts, dérive de la résolution XX du conseil d'administration. Et là, le GAC pourrait participer et contribuer. Alors on peut dire au GAC, c'est un travail lié aux politiques et vous pouvez participer. Mais tout cela serait utile pour que vous puissiez comprendre les résultats de tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent. J'espère que ce que je viens de dire sera utile pour vous. Vous vous rappelez de cette équipe? Eh bien, on travaille sur la base de ce que cette équipe-là a fait à un moment donné. Par exemple, les services d'anonymisation, la tâche de le WG, tout est lié à ce travail de politique. Alors, il faut se concentrer dans ce processus de développement de politique. Ce serait le point d'entrée pour le GAC. Bien sûr, il doit y avoir un acronyme, mais moi, je ne me souviens pas. J'espère donc que cela sera utile pour vous. Orateur non identifié, je tiens à vous remercier de tout ce que vous avez dit et je ne sais pas si cela a été déjà dit, il y a une autre équipe de révision du JUIS et le Conseil est préparé pour prendre en considération ce que le groupe d'experts a dit. Nous avons vu les résultats du groupe de révision du JUIS. Je ne me rappelle pas exactement les mots, mais on a parlé de l'efficacité des politiques existantes. Alors, il pourrait y avoir des modifications dans les politiques. Bruce Tonkin, je crois que cette équipe de révision a également fait la révision du JUIS détaillé. Alors, le travail de ce groupe, c'est faire la révision de ce qui s'est passé avec l'efficacité de ces politiques. Il y en a qui ont changé, mais il faut reconnaître que les PDP ont lieu parce qu'il y a une équipe de révision qui fait une recommandation, mais cette équipe doit tenir compte de cela. Maggie Millen, merci. Je crois que Steven et donc veulent ajouter quelque chose. Steve Sheng prend la parole. Merci, Margie. Le rapport du SSAC 051. Le SSAC a proposé une taxonomie pour voir le JUIS, parce que le JUIS était un terme que l'on connaît, qui était chargé. Il fallait le séparer en trois aspects. Premièrement, les données d'enregistrement des noms de domaine. Un autre a trait au protocole des données de registre, le protocole de JUIS. Et le troisième a trait au service d'annuaire qui applique certaines utilisations des politiques pour ceux qui utilisent le protocole. Pour chacun de ces domaines, il pourrait y avoir des politiques appliquées et des inquiétudes. Une des idées était d'établir des catégories pour clarifier la question et pouvoir mieux comprendre. Merci. Don Blumenthal, juste pour répondre à ce que Peter Niederfall a mentionné. C'est un puzzle. Mais le JUIS nous, Brian Kurt, le directeur exécutif du PIR, le JUIS est vivant. C'est une petite équipe qui a travaillé constamment. Il y a d'autres efforts qui ont été faits, mais en général, nous savons que ce qui a trait à d'autres efforts liés à la privacité ou à la représentation. Il y a plusieurs membres du groupe de travail d'experts dans notre groupe. Alors, si on analyse le rapport du groupe de travail d'experts, et il y a l'annexe qui parle de la privacité ou la vie privée. Alors, On a les différents groupes qui travaillent dans différentes directions. Ils sont communiqués entre eux. Hein. Ils savent quels sont les efforts qu'ils réalisent. Marge et Milam, maintenant, nous allons passer à la mise à jour sur la conformité. Owens Smigelski. Merci, Marge. Je vais faire une mise à jour sur les activités liées à la conformité contractuelle par rapport au RUIS. Je crois que cela représente 70% des plaintes reçues, tout ce qui a trait au RUIS et à son exactitude. Pendant la dernière année, il y a eu des changements par rapport à l'inexactitude du RUIS, notamment avec le RAA 2013 et les exigences de vérification et de validation aussi, avec le format du RUIS et l'accord de niveau de service SLA du RUIS et la version précédente, la version de 2009 du RAA. On a mis en place des codes de clôture du RUIS. Il y en a qui ont été modifiés parce qu'il y avait eu des plaintes qui avaient été présentées auprès de l'ICANN. Il y a une initiative qui a été lancée cette année liée au processus de révision de la qualité ou d'assurance qualité du RUIS, c'est faire une vérification du respect continu par les bureaux d'enregistrement pour les domaines qui ont été sous-vendus du fait d'avoir reçu des plaintes sur l'inexactitude du RUIS, des domaines qui n'étaient plus en vigueur. Aussi, la question liée à la conformité a été éliminée pour ceux qui ont présenté des plaintes sur l'inexactitude du RUIS et on va utiliser une procédure disant que la plainte devra être confirmée par email dans 5 jours civils. Le département de la conformité contractuelle publie un tableau de bord mensuel, comme vous pouvez le voir. Ici, il y a les 5 principales raisons pour l'inexactitude du RUIS et les plaintes sur le format du RUIS. Voici les 5 principales raisons, parce que ce serait vraiment difficile de le faire ici dans ce schéma. Mais on peut voir le grand nombre de plaintes sur l'inexactitude du RUIS. 42% a trait à la suspension des racines. Et en plus, cela a trait à des plaintes sur le format et le plus grand volume est résolu par les bureaux d'enregistrement qui corrigent le format. Voici quelque chose qui a commencé pendant la dernière année. Ce sont des données de janvier à juin 2014. Il y a les plaintes sur l'inexactitude du RUIS qui ont été fermées ou bien suspendues et des domaines qui étaient toujours suspendus. Vous voyez là, 81%, il y en a 10% qui ont été éliminés et d'autres qui ont été transférés. Pour les bureaux d'enregistrement qui ont montré aussi le respect continu. Vous avez ici le temps de rotation moyen du RUIS pour le personnel. Vous voyez là, depuis le début de la présentation de la plainte jusqu'à ce que l'on trouve une solution, jusqu'à ce que cette plainte est fermée. Il y a des variations dans le temps qui reflètent la caractéristique cyclique des plaintes. Il y a des périodes où il y en a plus, d'autres moins. Et la manière de travailler du personnel change, bien évidemment. Et ici, vous avez la date d'entrée en vigueur du RA 2013. Et on a vu qu'il n'y a pas eu trop de changements à partir de cette date. Ce dernier graphique vous montre une comparaison entre les RA 2001, 2009, 2013, les bureaux d'enregistrement. C'est difficile de tirer des conclusions pour dire qu'il y a plus de plaintes en 2013 si on le compare au 2009 pour ce qui est des bureaux d'enregistrement, parce que le volume de 2009 est bien plus élevé par rapport au 2013. Et les bureaux d'enregistrement qui ont signé un nouveau contrat d'enregistrement en 2013, eh bien, cela ne veut pas dire que tout était solutionné, qu'on ait trouvé une solution. Alors, il peut y avoir des plaintes qui ont trait au format du juiz. Steve Cheng prend la parole. Je vais faire une mise à jour des données d'enregistrement internationalisées. Nous l'appelons IRD. Ce sont des données dans une langue qui n'est pas l'anglais et qui est codée dans un code autre que l'ASCII. Mon collègue Francisco a déjà mentionné que dans le protocole actuel du juiz, dans le RFC 3912, eh bien, ce n'est pas internationalisé. Pour qu'il existe des données d'enregistrement internationalisées, le protocole doit être mis à jour. Et nous travaillons avec l'IEDF dans ce domaine, justement. Toutefois, il s'agit d'une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il y a encore des domaines où il faut définir et déterminer les données qui vont être internationalisées. Dans ce domaine, nous avons trois activités pour aborder la question. Premièrement, le PDP de la GNSO qui a trait à la traduction et à la translittération de l'information de contact. Actuellement, tous les registres et toutes les données d'enregistrement sont dans le code ASCII. Et maintenant, on va vers un système, un format plus internationalisé. La question est de se demander, il faut traduire ou translittérer tout cela dans un code spécifique et commun, parce que le cas échéant, qui prend en charge tout cela? Voilà les deux points les plus importants abordés par le PDP de la GNSO. Le groupe de travail du PDP considère également d'autres questions, comme par exemple les bénéfices de la transformation, qui est la traduction ou la translittération à la lumière des coûts potentiels. Et la transformation devrait être obligatoire pour tous les GTLD. La transformation serait obligatoire pour tous les titulaires ou seulement pour se baser dans certains pays. C'est un problème très difficile à aborder. Et suivant les développements récent, on a reçu des travaux et des commentaires qui viennent des organisations de soutien, des comités consultatifs, des groupes de parties prenantes, notamment de certains membres du CAC. Et le groupe de travail a prévu de présenter son rapport après la réunion, la 51e réunion de l'ICANN, pour que ce rapport soit complètement publié avant l'ICANN 52. En ce ayant trait aux activités liées à l'IRD, il y a l'équipe de révision du juiz qui mène cette activité additionnelle établie par sa charte constitutive. Alors, cet effort qui est réalisé est un peu plus vaste que le PDP de la GNSO parce que ce dernier est ciblé sur l'information de contact et s'il faut la traduire ou la translittérer. Dans le cas des données du juiz, il y a d'autres données transactionnelles ou opérationnelles qui ont trait aux données d'enregistrement où il faut prendre en compte les exigences pour l'internationalisation. C'est la tâche de ce groupe de travail en particulier. Ce groupe de travail a présenté un rapport préliminaire et après la 51e réunion de l'ICANN, il va présenter son rapport final. Pour informer sur les deux efforts, l'ICANN, en tant que partie de l'équipe de révision du juiz, a effectué une étude pour documenter les pratiques actuelles et les possibilités de transformation pour les données d'enregistrement internationalisées. On analyse les pratiques pour voir comment gérer ces données d'enregistrement internationalisées par les bureaux d'enregistrement et les registres, mais aussi par d'autres industries, par exemple les services en ligne, les commerces électroniques, et ce n'est pas quelque chose de tout neuf. On a fait aussi une expérience pour voir quelle est l'exactitude de différents outils de transformation pour les droits d'enregistrement internationalisés. Le rapport final de cette étude sera publié vers la fin de ce mois-ci, octobre-novembre. Et on a trouvé que les registres ou les bureaux d'enregistrement qui ne répondent pas et qui transforment actuellement les données d'enregistrement et demandant les protocoles de consultation n'ont pas le soutien pour les données d'enregistrement internationalisées et qu'aucun des outils donne suffisamment d'exactitude ou de cohérence. Voilà ce que l'étude a donné comme résultat et cette étude va être publiée vers la fin de ce mois-ci. Merci beaucoup.
Susan, an opportunity to talk about.
Marty Mellon prend la parole. Nous allons donner à Susan l'opportunité de parler sur le groupe d'experts. Vous allez recevoir le matériel d'ici peu. Susan? Susan Kagaguchi prend la parole. Le groupe de travail d'experts EWG a été constitué. Sa première réunion a eu lieu en février 2013. C'est un groupe constitué par des experts venant de différentes disciplines qui a différentes expertises. Nous avons pu discuter de façon directe avec des participations individuelles pour chercher des points de contact ou de compréhension. Nous avions pensé que nous allions pouvoir arriver à élaborer des recommandations en 3 ou 4 mois et nous avons donc travaillé pour présenter le rapport à Londres. Nous avons travaillé ensemble pour trouver une réponse à la question du conseil d'administration, à savoir s'il y avait un système pour remplacer le WHOIS et servir mieux la communauté de l'ICANN. Dans notre rapport final, je pense que nous sommes arrivés à un équilibre entre l'exactitude, l'accès et la vie privée. Il est difficile de donner la priorité à un domaine par rapport aux autres. Nous avons beaucoup discuté, nous avons collecté beaucoup d'informations pour essayer de trouver un nouveau paradigme qui permette d'accéder au système lorsque l'utilisation des données aura un but spécifique. Les membres du Conseil se penchent sur ce dossier pour voir comment mettre en place le PDP correspondant. Il y a eu un groupe de coopération qui s'est réuni pour voir quelle pourrait être la meilleure structure du PDP. Et la première réunion aura lieu mercredi. Ce groupe est constitué par les membres du conseil de la Geneso et du conseil d'administration. Or, il nous faut que tout le monde y contribue, que tout le monde puisse apporter des idées. Nous avons 180 recommandations. Beaucoup d'entre elles sont pertinentes, mais peut-être qu'il faut faire des ajustements. Nous avons une adresse de courrier électronique pour que vous nous fassiez parvenir vos idées par rapport à la structure que devrait avoir ce PDP et pour que vous nous fassiez parvenir vos commentaires au fur et à mesure que vous les aurez. Je vous encourage vivement à participer. Sur l'écran, vous voyez les délais que nous avions établis. Au départ, en novembre 2012, le conseil d'administration a commencé à préparer le travail après la présentation du rapport par l'équipe de révision du WHOIS. Vous voyez les différentes étapes qui nous amènent au moment où nous nous trouvons maintenant, où nous sommes. Nous avons ici le conseil de la Geneso qui va prendre certaines décisions par rapport à la façon dont nous allons avancer. Si vous voulez en savoir plus, vous avez sur l'écran différentes sources d'informations. Et toutes les présentations se trouvent sur le site web de l'ICANN. Margie Millen prend la parole. Nous allons donc ouvrir le micro à ceux qui souhaitent poser des questions. S'il vous plaît, je vous demande de allumer le micro pour que les gens puissent poser leurs questions. Le micro qui est dans l'allée centrale. Très bien. Je m'appelle Kathleen Kleiman, j'appartiens au groupe de parties prenantes non commerciales et je fais partie de l'équipe de révision du WHOIS. C'est bien de faire partie du public parce qu'on voit tout ce qui se passe en même temps. Ma question est la suivante. L'EWG, le groupe d'experts, a créé un changement. Il y a beaucoup de travail qui est fait à partir des recommandations de l'équipe de révision du WHOIS. On a beaucoup travaillé sur la vérification, sur la validation, sur l'accréditation des services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire, le WHOIS détaillé, le WHOIS par rapport au WHOIS résumé. La question est la suivante. Gardons-nous le système que nous avons ou allons-nous adopter un nouveau système? Le groupe d'experts s'est posé beaucoup de questions. Comment valider les données? Comment valider les identifications pour pouvoir valider un nom de domaine? Il y a beaucoup d'aspects liés à la liberté d'expression, aux droits de l'homme. Il y a beaucoup de pistes à explorer. Et nous avons donc deux voies parallèle. Et en ce moment, nous ne savons pas très bien laquelle nous allons adopter. Elliot Nosk, The Two Cows. Je voulais parler des initiatives en matière de conformité contractuelle, les initiatives en cours. À Two Cows, nous nous inquiétons du fait de voir comment on traite ces rapports par rapport à l'inexactitude du WHOIS. Je parle avec les gens de mon équipe en charge de la conformité contractuelle et je leur demande quelle partie de leur travail concerne l'inexactitude du WHOIS est un travail productif. Et ils m'ont dit qu'une toute petite partie de leur travail en matière d'inexactitude de WHOIS donnerait lieu à ces résultats. Nous avons pu voir dans les résultats que vous nous avez montrés qu'on se focalise sur le volume et sur la rotation. Donc, c'est comme si c'était un service client qui se focalise plus sur le nombre d'appels reçus que sur la qualité du service fourni à ses clients. C'est la première fois que j'aborde cette question. Si l'on avait beaucoup de volume, beaucoup de rotation, ce serait bien. Mais ce que nous ne recevons pas, c'est une bonne qualité de service. Et l'amélioration de l'inexactitude ne va pas nous donner des bénéfices immédiats parce que parfois on a un grand nombre de noms de domaines qui sont suspendus et il s'agit de personnes qui n'ont pas la connaissance du processus. On voit qu'on consacre énormément de temps, par exemple, après une fois qu'un bureau d'enregistrement corrige les données qui ne sont pas bien, il faut parfois corriger des petits détails, genre un numéro de fax. Et même le volume d'informations que vous avez présenté, on a vu que 32% des réclamations concernent une personne qui se plaint par rapport à son propre nom de domaine, ou bien c'est une plainte qui est répétée. Or, ce processus crée des problèmes aussi. Je le dis ouvertement parce qu'ici, on retrouve des gens qui appartiennent à différents secteurs et qui sont intéressés à ce sujet. Et je le dis parce que je tiens à encourager les gens à travailler pour avoir une plus grande visibilité du processus vis-à-vis des bureaux d'enregistrement qui essayent de résoudre ces problèmes. Les bureaux d'enregistrement travaillent en toute bonne foi pour essayer de résoudre ces problèmes. Donc, les personnes qui réclament ou déposent des réclamations en matière d'inexactitude du quiz méritent une certaine transparence pour mieux comprendre comment fonctionne le système. Et deuxièmement, il nous faut une espèce de normalisation, d'établir des standards communs, des normes communes pour tous les bureaux d'enregistrement, pour tous les titulaires de noms. Il y a beaucoup de travail en cours. Bertrand de la Chapelle travaille beaucoup au niveau des juridictions de l'Internet. Il y a des cadres de travail extrêmement intéressants qui sont en cours et qui seraient très utiles ici. Je tiens donc à vous encourager à changer pour que nous, en tant que titulaires des noms, puissions accéder à la source de toutes ces réclamations, parce que ce que nous voulons faire, c'est d'avoir moins de réclamations et pouvoir consacrer moins de temps à ces questions pour consacrer davantage d'efforts aux vrais problèmes. Holly Rage prend la parole. En ce qui concerne les statistiques, si nous finissons le travail au sein du groupe de travail sur l'accréditation des services d'enregistrement fiduciaire et anonymisation, nous allons pouvoir nous mettre en phase avec le RRA 2013. Il y a des gens qui essayent de dérober certaines données et qui ne connaissent pas forcément le processus, les spécifications. Maintenant, dans le RA 2013, il y a une spécification en ce sens, et cela aura un impact sur l'exactitude et sur ces personnes qui souhaiteraient avoir un service de confidentialité ou d'anonymisation. Ils pourront peut-être se sentir plus à l'aise. Il faut bien comprendre ce qu'impliquent les différentes statistiques. Quand on évalue le travail des services, ce sont tous des services différents. Il faut les évaluer de façon différente. Bonjour, je représente Mark Monitor. Merci pour cette présentation et pour les informations que vous nous avez fournies. Nous sommes inquiets par rapport aux droits des registrants. Et pour nous, il est très important de voir quelle est la responsabilité des titulaires. Par exemple, si on va faire une publicité sur un site web, il faut voir s'il est approprié d'avoir recours au service d'anonymisation, par exemple. Quand on voit ces questions juridiques et quand on voit tout cela avec le groupe de travail d'accréditation des services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire, nous analysons donc les questions juridiques. Il faut voir si cette partie aussi importante concernant la vie privée et la confidentialité des données, il faut voir quelles sont les responsabilités des bureaux d'enregistrement à la lumière des lois en matière des intérêts commerciale. Bénédicte Addis, ancien membre de l'équipe d'agences et d'organismes chargés de l'application de la loi qui a négocié certaines spécifications du RA 2013. Je suis membre de SSSAC. Je voulais faire référence à ce travail très complet qui a été fait par le Centre de recherche NORC. Je tiens à vous féliciter pour le travail que vous avez fait. Mais il y a un point que nous souhaiterions soulever devant le public, c'est-à-dire que vous avez fait des adresses de courrier électronique, téléphone, etc. Et vous avez tout cela de manière séparée et il faut les mesurer de manière séparée, individuellement. Stephen Petlow prend la parole. Merci. Ces mesures se font de manière complètement séparée. Et nous voulons arriver à une seule qualification qui puisse les combiner pour un nom de domaine. C'est quelque chose que nous allons essayer de comprendre, de résoudre. Donc, si vous avez des idées, je suis ouvert à vous écouter. Michael Nalen prend la parole. Merci. J'ai fait partie du groupe d'experts et en ce moment, je préside le groupe de bureau d'enregistrement, mais je parle à titre personnel. Cathy a parlé de cela, mais d'un point de vue un peu différent. Apparemment, il y a plusieurs initiatives en cours en même temps et nous sommes en train de faire des efforts de ne pas bien profiter de ces efforts. Il faudrait peut-être nous mettre d'accord pour voir pourquoi il faut faire une transition du juice simplifié au juice détaillé si dans 3 ans, il y aura une recommandation de l'EWG qui sera mise en place. Je ne dis pas que ces recommandations seront mises en place, mais il faut en tenir compte. Alors, pourquoi Verizon et les autres bureaux d'enregistrement, pourquoi ne pas s'arrêter et réfléchir à cela pour ne pas répéter ces efforts. Je vois que l'ICANN fait beaucoup par rapport à la validation, mais cela ne se voit pas au niveau des relations contractuelles avec les différents clients, etc. Donc je crois qu'on ne focalise pas suffisamment les efforts, on ne focalise pas bien les efforts. Stéphanie Perrin, j'ai été membre du groupe d'experts et je voulais rebondir sur quelque chose qu'a dit Don Blumenthal. Il a dit qu'en fait, les personnes qui ont travaillé dans la question du quiz depuis longtemps et Tom, j'en suis reconnaissante. Tom, je suis reconnaissante de ce que tu as fait. Il faut comprendre comment les différentes pièces de ce puzzle peuvent s'organiser. Ça me prend à peu près 6 mois. Ça m'a pris 6 mois de comprendre ce qui devait se passer pour pouvoir étudier les rapports. Et il y a des gens de mon groupe qui me disent que je n'ai jamais compris complètement ces rapports. L'ICANN a la responsabilité d'élaborer cette feuille de route que nous a demandé la représentante des États-Unis pour que les nouveaux participants, pour que toutes les personnes dans le monde entier puissent participer de façon intelligente et faire une contribution intelligente. Voilà ce que je vous demande. Margie Mylan, merci Stéphanie. Merci à tous de votre participation à cette séance sur le RUIST. Nous remercions tout spécialement les membres du GAC de leur contribution. Nous remercions les intervenants, les panélistes et nous sommes prêts à poursuivre le dialogue avec vous dans l'avenir. Merci beaucoup.